Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 13 décembre 2023. Avec vous, Eric Manuakiza. D'abord les titres. Les États-Unis expriment leur inquiétude face à la situation des droits de l'homme au Burkina Faso. À Dakar, report du délibéré sur le sort d'Ousmane Sonko, attente prolongée pour ses partisans. La transition militaire au Gabon, 100 jours après, vers un retour des civils au pouvoir.
On part à l'hôpital, on est vraiment bien servi. Tu vas à la mairie pour légaliser le papier, on vient te prendre le papier, avant 5 minutes tu es déjà servi.
Le président de Guinée-Bissau reconduit Gerald Martins comme premier ministre, suscitant des contestations dans l'opposition. La réinsertion des anciens détenus au Togo, défi et initiative de la société civile pour réduire la récidive.
L'objectif de ce projet était de faire premièrement une plaidoirie et consistait réellement à faire sortir ces anciens détenus et leur réinsérer dans la vie active.
La lutte contre l'érosion côtière au Bénin, malgré les efforts, les côtes continuent de reculer, menaçant l'existence de la ville de Cotonou. Joe Biden appelle à un changement de gouvernement israélien pour soutenir la solution à deux États avec les Palestiniens. Les États américains poursuivent Instagram et Facebook pour leurs effets sur la santé mentale des jeunes. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les partisans d'Ousmane Sonko devront attendre encore 48 heures pour connaître le verdict concernant leur leader. Le tribunal hors classe de Dakar, initialement prévu pour statuer ce mardi sur son dossier de radiation, a reporté le délibéré au 14 décembre. Les précisions de Wahani Johnson Sambou.
La décision a été prise par le juge après près de 10 heures de plaidoirie des avocats de Sonko et ceux de l'État. Une petite déception pour la défense de l'opposant sénégalais, mais Maître Saïd Larifou, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, veut encore y croire.
Je suis sûr de nos droits, je suis sûr des droits de notre client, M. Ousmane Sonko. Nous sommes très confiants, puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Ce n'est pas de notre domaine.
Un discours qui contraste évidemment avec celui des avocats de l'État. Maître Elas Diouf crie déjà victoire, estimant que le tribunal hors classe de Dakar ne peut contredire la Cour suprême.
La Cour suprême ayant décidé, les juges inférieurs ne peuvent pas dire le contraire. La Cour suprême aurait pu vider ce dossier-là depuis très longtemps, au lieu de renvoyer devant le tribunal d'instance de Dakar, qui ne peut pas contredire la Cour suprême. Donc, nous avons déjà gagné.
Le verdict est donc attendu ce jeudi, une journée cruciale pour Ousmane Sonko et ses soutiens. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Le département d'État américain exprime ses préoccupations concernant la situation des droits de l'homme au Burkina Faso, condamnant l'utilisation croissante de conscriptions forcées et ciblées par les autorités militaires de transition. Alexandrine Rolignon.
En cette période d'insécurité et de transition au Sahel, les États-Unis condamnent la violence inacceptable commise par les groupes terroristes au Burkina Faso. Washington dit être un partenaire engagé dans la lutte contre le terrorisme. Mais les États-Unis sont inquiets des actions des autorités de transition, comme l'utilisation croissante des conscriptions forcées et ciblées, la réduction de l'espace civique et les restrictions concernant les partis politiques, a indiqué hier le Département d'État dans un communiqué. Ces actions ont pour effet de réduire au silence des individus qui œuvrent à la promotion d'une gouvernance démocratique, poursuit Washington. Plusieurs ONG ont dénoncé ces dernières semaines des enlèvements et réquisitions forcées de voix critiques du régime. La semaine dernière, un juge d'un tribunal administratif a ordonné la suspension des réquisitions d'au moins 7 leaders syndicaux, d'organisations de la société civile et des journalistes. L'État a la possibilité de faire appel à cette décision.
Tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste auront quitté le pays d'ici le 22 décembre. L'armée nigérienne a précisé que le processus de désengagement des troupes françaises se poursuit jusqu'ici de manière coordonnée et en toute sécurité, précisant qu'il ne restait que 157 soldats français sur le territoire national. À une semaine des élections, les difficultés pratiques d'organisation, la méfiance des opposants envers l'ensemble du processus et les combats dans l'Est font monter la tension en RDC. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Plus de 100 000 candidats sont en lice pour les 4 scrutins, selon la commission électorale CENI, dont 22 pour la présidentielle. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a reconduit Geraldo Martins au poste de Premier ministre après la dissolution de l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition. Martins, membre de l'opposition victorieuse aux législatives, est critiqué pour sa proximité supposée avec le président Rosine Mounezir.
Geraldo Martins, étant responsable de la coalition de l'opposition qui a remporté les législatives de juin autour du parti historique PAIGC. Sa reconduction par décret à la tête du gouvernement est contestée dans sa propre famille politique, car certains le jugent trop proche du président Embalo. Après la dissolution du Parlement qui appelle la tenue d'élections à une date encore incertaine, malgré les délais prescrits par la loi, le président bissau-guinéen avait parlé de tentative de coup d'État avant de dissoudre le Parlement. Domingo Simoes Pereira, président du Parlement et adversaire de longue date de M. Embalo, a dénoncé un coup d'État constitutionnel. Des affrontements ont opposé le 1er décembre la garde nationale et l'armée, faisant au moins 2 morts dans la capitale Bissau. Ces affrontements sont une nouvelle illustration des fractures politiques profondes au cœur de l'État et qui traversent aussi les forces de sécurité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a lancé un avertissement sévère en présence du président ukrainien en déclarant que le président russe Vladimir Poutine comptait sur la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a affirmé avoir reçu des signaux positifs du Congrès. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Après leur rencontre, le président Biden et son homologue ukrainien ont donné une conférence de presse conjointe. Joe Biden a durement critiqué les élus républicains qui s'opposent à sa demande d'une enveloppe supplémentaire de 61 milliards de dollars pour Kiev, déclarant que l'histoire jugera sévèrement ceux qui ont tourné le dos à la cause de la liberté. Volodymyr Zelensky a fait part de signaux positifs reçus du Congrès américain, bien que les tractations y soient très difficiles. Le président ukrainien a souligné l'importance d'envoyer avant la fin de l'année un signal très fort d'unité à l'agresseur. De son côté, le Kremlin a estimé que toute nouvelle aide américaine était vouée à l'échec, tandis que l'armée russe a revendiqué des avancées significatives sur une partie du front. Les élus américains disposent en théorie jusqu'à vendredi pour parvenir à un accord.
Le président Joe Biden a déclaré hier que, contrairement à la position de Washington, le gouvernement israélien n'est pas favorable à une solution à deux États avec les Palestiniens. Il a également appelé le Premier ministre israélien à procéder à des changements au sein de son gouvernement, davantage avec Jean-Roger Biou.
C'est la première fois depuis l'attaque du Hamas contre Israël que Joe Biden fait état publiquement de ses divergences avec l'exécutif israélien. C'est le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël, a réitéré le président américain. Il s'exprimait devant des donateurs du Parti démocrate. Il a appelé Benjamin Netanyahou à renforcer et changer l'exécutif afin de trouver une solution de long terme au conflit israélo-palestinien. Il a aussi estimé qu'Israël, qui bombarde intensément la bande de Gaza, commence à perdre le soutien de l'opinion publique mondiale. Lundi soir, lors d'une réception à la Maison-Blanche marquant la fête juive de Hanouka, Joe Biden avait déjà estimé que les Israéliens devaient être prudents car l'opinion publique mondiale peut changer à tout moment. Il est aussi revenu sur sa relation notoirement difficile avec le premier ministre israélien. Pour sa part, Benjamin Netanyahou a fait état hier de désaccord avec Joe Biden sur leur vision à long terme une fois terminé le conflit dans la bande de Gaza.
L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mardi un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, un texte non contraignant qui vise toutefois par sa majorité écrasante à mettre la pression sur Israël et son allié américain. La résolution adoptée par 153 voix pour, 10 contre et 23 abstentions sur 193 États membres a engrangé plus de soutien que celle d'octobre qui appelait à une trêve humanitaire immédiate durable et soutenu menant à la cessation des hostilités. La présidence émiratie de la COP28 a dévoilé ce mercredi un nouveau projet de compromis pour débloquer les négociations climatiques de Dubaï, appelant les pays du monde entier à transitionner hors des énergies fossiles dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément à la science climatique. Le document propose pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat des Nations Unies de mentionner toutes les énergies fossiles largement responsables du changement climatique, dans une décision à adopter par tous les pays. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée par Rosine Mounezé.
Depuis le 6 décembre 2023, une mission d'opérateurs économiques argentins prospecte des opportunités de partenariat et d'investissement au Cameroun. Selon Investir au Cameroun, les deux pays entendent renforcer leur coopération économique qui est de plus en plus dynamique ces dernières années. Selon les données de la Chambre de commerce et de l'industrie du Cameroun en 2020, les exportations camerounaises vers l'Argentine ont culminé à 18 milliards de francs CFA avant d'atteindre 25 milliards de francs CFA en 2021. Le Kenya est sorti du danger du surendettement selon son président William Ruto, qui a vanté sa politique économique malgré la colère des Kenyans face aux hausses d'impôts et à la réduction des subventions. M. Ruto n'a fourni aucun chiffre sur le niveau actuel de la dette publique, mais a souligné que le produit intérieur brut a connu une croissance de 5,4% lors des 6 derniers mois. La Banque centrale de Tunisie a maintenu son taux directeur à 8% à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire le 11 décembre. Selon le comité, le taux directeur actuel va contribuer à une décélération de l'inflation dans la période à venir, sachant que l'inflation globale annuelle a poursuivi sa tendance à la baisse amorcée depuis le mois de mars 2023.
Sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Marocain Yassine Bounou figure parmi les trois finalistes de la FIFA pour son prix du meilleur gardien de but 2023.
Cinq joueurs ont été initialement nominés pour le prix du meilleur gardien masculin de la FIFA, qui récompense les joueurs les plus remarquables du football masculin entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. Puis le Marocain Yassine Bounou, le Belge Thibaut Courtois et le Brésilien Ederson Santana de Moraes ont été sélectionnés par un jury international composé d'entraîneurs et de capitaines des équipes nationales masculines, de journalistes de football et de supporters qui ont voté sur le site officiel de la FIFA. Yassine Bounou, alias Bono, est le gardien de but du club saoudien Al Hilal et de l'équipe nationale du Maroc. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 avec les Lions et vainqueur de l'Europa League avec Séville FC, Bono a été sacré meilleur gardien africain de l'année à la cérémonie des CAF Awards lundi à Marrakech. Thibaut Courtois, l'autre nominé, est le gardien de but du Real Madrid et de l'équipe nationale belge. Enfin, Ederson Santana de Moraes est le gardien de but de Manchester City et de l'équipe nationale du Brésil. Le vainqueur sera connu lors d'une cérémonie à Londres le 15 janvier 2024.
La FIFA a également dévoilé les trois finalistes pour son prix de la meilleure gardienne de but, Mackenzie Arnold, Catalina Cole et Mary Earps.
Mackenzie Arnold, Catalina Cole et Mary Earps ont été retenues finalistes du prix de la meilleure gardienne féminine de la FIFA 2023 sur sept joueuses nominées. Les trois finalistes ont été sélectionnées par un jury international composé d'entraîneurs et de capitaines des équipes nationales féminines, de journalistes de football et de supporters qui ont voté sur le site officiel de la FIFA. L'Australienne Mackenzie Arnold est gardienne de but du club de Super League féminine West Ham United et pour l'équipe nationale australienne. L'Espagnole Catalina Cole est gardienne de but du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne. Enfin, l'Anglaise Mary Alexandra Earps est gardienne de but de Manchester United et de l'équipe nationale d'Angleterre. Le prix sera aussi dévoilé à Londres le 15 janvier 2024.
Page des sports, signée Namit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. La transition militaire au Gabon entre dans son troisième mois, ayant débuté le 30 août 2023 avec le renversement d'Ali Bongo Ondimba par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Prévoyant un dialogue national inclusif d'ici avril 2024 et des élections en août 2025, ce plan marque un processus complexe, suscitant à la fois doute et espoir chez une population en quête de retour à la gouvernance civile. Le reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obiang Nze.
À Libreville, comme dans le reste du pays, le coup d'État a été accueilli favorablement par une population exacerbée par la précarité, la corruption et les détournements de deniers publics par le clan Bongo. Trois mois après, le comité pour la transition et la restauration des institutions dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a-t-il convaincu ?
On part à l'hôpital, on est vraiment bien servi. Tu vas à la mairie pour légaliser le papier, on vient te prendre le papier, avant 5 minutes tu es déjà servi. Il y avait certaines voies où c'était les travaux s'étaient arrêtés. Et maintenant là les travaux ont repris en force, la surveillance des militaires, on est vraiment satisfait.
Comme la majorité des Gabonais, Fortuné a été très séduit par le coup de force qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba. Au fil du temps, l'activiste des réseaux sociaux commence à déchanter. Il dénonce entre autres des poursuites sélectives contre les fossoyeurs des fonds publics.
Je crois que la note du CTRI va à 8 sur 20. Vous sortez certains, vous décédez d'autres en prison. Tous les maux du système, c'est Ali lui-même qui a créé ça. Pourquoi il n'y a pas un procès pour lui? On a bien vu en Côte d'Ivoire, Gbagbo. Il allait d'abord s'asseoir quelque part avant de revenir.
Pour le Parti patriotique gabonais, nouvelle formation dans le paysage politique national, il est tôt pour dresser le bilan d'étape du comité militaire. Alain Simplice Bongoares, président du PPG.
On va dire, gérer un pays, ce n'est pas comme une épicerie. Ça demande du recul. Donc je pense que tous, nous devons prendre du recul et laisser d'abord les premières bases se mettre en place pour qu'ensuite nous puissions, on va dire, apprécier.
Les trois mois du CTRI font la une des journaux avec un prolongement du sujet dans les officines politiques. Selon la coalition pour la Nouvelle République de l'opposant Jean-Ping, il y a des raisons de croire à la trajectoire prise par les soldats. Vincent Bolingui Bokoso, vice-président de la CNR.
Grâce à ces forces de défense et de sécurité portées par le peuple gabonais, toutes les voies de l'espérance sont ouvertes.
La fin de la collecte des contributions citoyennes dans quelques jours ouvre la voie à l'écriture de nouvelles pages de l'histoire du Gabon. C'est l'engagement du CTRI qui entend rendre le pouvoir aux civils après la restauration des institutions. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
La réinsertion des anciens détenus reste une préoccupation majeure pour les autorités togolaises. Selon le ministère de la Justice, les taux de récidive s'élèvent à 47% pour la prison de Lomé et à 50% pour les autres établissements pénitentiaires du pays. Pour contrer cette tendance, diverses organisations de la société civile mettent en place des initiatives visant à réduire ces chiffres via des projets de réinsertion des ex-détenus. Depuis Lomé, la correspondance de Kossi Wousou.
Yao, la trentaine habitant la localité d'Agné dans la région des Plateaux, fait partie d'une soixantaine d'anciens détenus bénéficiaires du projet Helping Hand qui vise leur élargissement et leur réinsertion. Sorti de prison, il a entamé une formation en couture grâce à l'association GAT, le Global Alumni Association of Togo.
Il s'est fait que j'ai ouvert mon entreprise et puis j'ai fait faillite. C'est à ce moment que je me suis retrouvé en prison. Et de la sortie de la prison, un garde m'a approché. Je leur ai dit, ah, si je peux apprendre un métier, ça serait bon. Donc, et puis, ils m'ont aidé à apprendre le métier de la couture. Actuellement, j'ai déjà fait plus d'un an dedans. Maintenant, je sais que j'ai un avenir, j'ai un espoir, puis je vais gérer bien.
Tout comme Yao, certains anciens détenus se sont reconvertis au maraîchage, chauffeur de taxi ou encore revendeuse de céréales. Pour Aboulou Salam du GATT, les objectifs du projet Helping Hand qui vient de s'achever ont été atteints.
L'objectif de ce projet était de faire premièrement une plaidoirie et consistait réellement à faire sortir ces anciens détenus et leur réinsérer dans la vie active. Et nous avons certains anciens détenus qui ont retrouvé leur liberté. La grande majorité qui ont aujourd'hui du travail, qui ont aujourd'hui des activités rémunératrices de revenus. Et on peut dire que le bilan était satisfaisant.
Cependant, si la majorité des ex-détenus concernés par le projet ont pu quitter les prisons, certains d'entre eux n'ont pas pu réussir leur insertion.
Les réseaux d'abandon, il y a eu exigence à recevoir l'assistance en espèces et refus de commencer petit. Il y a d'autres qui ont demandé à être logés et pris en charge 100% tout au long de leur formation. Mais l'essentiel, c'est l'inconscience de certains jeunes bénéficiaires. On essaie de les accompagner pour sortir de là, mais tu constates que pour le terme, ils ne peuvent pas vraiment collaborer.
L'Union des jeunes avocats du Togo a accompagné le GATT dans la partie de plaidoirie pour la relaxe de ces détenus incarcérés pour de petits délits. Au vu des résultats, après 3 ans de mise en œuvre, Maître Doucy, le président de l'UJAT, souhaite une pérennisation d'un tel projet.
Effectivement, on a eu à défendre les prisonniers gratuitement. Et voilà quelques-uns qui sont aujourd'hui à liberté. Comme on est en train de l'observer aujourd'hui, ils ont eu à bénéficier d'un peu de réinsertion. Nous pensons que ceux qui sont encore aujourd'hui en détention, il y en a parmi eux qui pourront aussi bénéficier de ce projet-là. Donc notre vœu, c'est de voir se renouveler ce projet-là, pour qu'on puisse reprendre cette activité pour le bonheur de ceux qui sont encore dans le cas.
Le GATT, qui a eu le soutien financier de l'ambassade des États-Unis au Togo pour la mise en œuvre de ce projet, indique s'engager aux côtés des autorités pour une meilleure réinsertion des ex-détenus et faire baisser ainsi le taux de récidive. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Depuis les années 90, la lutte contre l'érosion côtière mobilise d'importants efforts au Bénin. Malgré des investissements massifs et une volonté politique manifeste, les côtes du pays continuent de reculer. Le changement climatique est désigné comme responsable. Suivez ce reportage de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Dans sa furie, l'eau au niveau des côtes béninoises ainsi que les villes et villages lacustres emporte tout sur son passage. Jadis meublés par d'élégantes maisons et de restaurants, les côtes se vident chaque jour. Quelques propriétés terriennes expriment la désolation.
Et ce qu'on a fait, ça, l'épaisseur de 1 mètre 20 sur 4 mètres de profondeur, rien que de béton. Allez imaginer, sur près de 200 mètres. Et après ça, elle a continué le rechargement. Sinon, le quartier aussi serait à terre.
Honnêtement, je suis très malade actuellement de tout ça et je suis fatiguée, mais malgré que je suis malade de toute cette pression, je vais quand même continuer le combat.
Je crois que d'ici un an, non seulement le restaurant va partir, le 4 et ensuite toute la ville.
Les riverains pointent du doigt le gouvernement qui n'aurait pas pris le taureau par les cornes. Pour certains, vouloir arrêter l'avancée de la mer avec ses seuls bras, c'est comme planter des épis dans l'océan pour empêcher la montée des eaux.
Les études ont montré que si on effectue de tels ouvrages dans la mer, du côté est, ça doit bouffer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte le côté est pour parvenir à ce drame-là.
La mer ravage tout sur son passage depuis qu'ils ont érigé l'extension de l'épi. Et je regrette beaucoup parce que je pense qu'on aurait évité tout ça si on avait pris la peine de sécuriser, de protéger le quartier en faisant des brise-lames comme ça se fait partout.
C'est en tout cas pour aider les pays comme le Bénin à sécuriser leur côte que le programme Waka existe. Lancé en 2016 à l'occasion de la COP21, le programme de gestion du littoral ouest-africain a pour objectif d'aider les pays à obtenir les financements et l'expertise dont ils ont besoin pour parvenir à assurer une gestion durable de leur zone côtière. Selon Bio Diaramoussa, spécialiste du programme au Bénin, on note de belles avancées.
Nous avons repoussé l'océan de 200 mètres par rapport à sa position initiale. Les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet Waka peuvent être subdivisés en deux types d'ouvrages, à savoir les ouvrages terrestres qui regroupent les ouvrages de type épi et les ouvrages en enrochement de type épi, comme des revêtements, comme le talus que nous avons en face de nous, et les ouvrages maritimes. Dans la reconstitution des routes de plage par dragage, une des priorités est le respect de la granulométrie, c'est-à-dire le respect du fuseau granulométrique. Parce que lorsque vous ne respectez pas le fuseau granulométrique, vous exposez votre plage.
Selon plusieurs experts scientifiques, on ne peut régler la question de la montée des eaux sans évoquer le problème du changement climatique et le rôle que joue l'homme par son comportement. Dr Maurice Sarensou, spécialiste des ressources en eau et MEDA, comme l'Anouilhankoin, chef service de l'adaptation au changement climatique.
On ne peut rien faire pratiquement contre le changement climatique. On subit le changement. On doit prendre des dispositions pour vivre avec. Si ça s'impose à nous, on doit s'adapter.
De plus en plus, il y a beaucoup de supputations sur ce que le changement climatique est et ce qui relève du changement climatique. Et avec cette petite expérience que nous avons au niveau du PASS-PNA et ce que nous sommes en train de faire, on essaie d'amener des évidences scientifiques, de documenter le processus en recherchant des preuves pour voir qu'est-ce qui relève du changement climatique.
En 2050, est-ce qu'on aura une meilleure maîtrise de l'eau? Est-ce qu'en 2050, on aura une meilleure gouvernance par rapport à aujourd'hui?
Perte de territoire, phénomènes migratoires, dangers pour les écosystèmes côtiers, changement climatique sont les conséquences néfastes de l'érosion côtière. Une question d'intérêt public contre laquelle le Bénin se bat et les réponses certainement ne viendront pas de Dubaï où se termine la COP28. De Cotonou, Zinetria dans les pouvées au Afrique.
Ici aux États-Unis, des législateurs et des parents pointaient du doigt les plateformes et de médias sociaux, les accusant d'aggraver les problèmes de santé mentale chez les jeunes. Un groupe d'États américains engage des poursuites contre les propriétaires d'Instagram et de Facebook, affirmant qu'ils ont promis leur plateforme auprès des enfants malgré leur connaissance des dommages psychologiques. Tina Trin, c'est son reportage relaté par Alexandrine Rologne.
33 États américains poursuivent Meta, le propriétaire de Facebook et d'Instagram, pour les dommages que les plateformes de médias sociaux causeraient à la santé mentale et physique des enfants. Rob Bonta est le procureur général de Californie.
En cherchant à augmenter ses profits, Meta a trompé le public à plusieurs reprises sur les dangers substantiels de ses produits. Elle a dissimulé la manière dont Instagram et Facebook exploitent et manipulent ses consommateurs les plus vulnérables, les adolescents et les enfants.
L'avocat Matthew Bergman a déjà déposé des plaintes pour des cas de cyberintimidation dans les médias sociaux qui font maintenant partie du procès multi-étatique. Il affirme que les plateformes de médias sociaux sont dangereuses pour les jeunes, moins en raison de leur contenu que de la manière dont elles sont conçues pour promouvoir la dépendance.
Les algorithmes sont explicitement conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs, non pas pour donner aux enfants ce qu'ils veulent voir, mais pour leur donner ce dont ils ne peuvent pas se détourner. Ils les soumettent à des contenus qu'ils ne cherchent pas, qui les amènent à détester leur apparence et leur corps, et qui les encouragent à adopter des comportements à risque.
Pour sa part, Meta prétend offrir une trentaine d'outils et de ressources pour aider les adolescents à préserver leur vie privée et leur bien-être, y compris des protections contre les contacts non désirés. Emily Dalton-Smith est vice-présidente de la gestion des produits Meta.
Ainsi, lorsqu'un adulte essaie d'envoyer un message à un adolescent qui ne le suit pas, il verra une notification lui indiquant qu'il n'est pas possible d'envoyer un message à l'adolescent.
Les critiques disent que le géant des médias sociaux pourrait faire plus, mais choisit de ne pas le faire. Et les conséquences finissent par rattraper tout le monde, même ceux qui travaillent chez Meta. Arturo Bihar, ancien ingénieur en sécurité de Facebook, a déclaré au Congrès qu'il n'avait pas besoin d'aller bien loin pour être témoin de ces menaces.
Ma fille de 14 ans a rejoint Instagram. Elle et ses amis ont commencé à vivre des expériences horribles, notamment des avances sexuellement désirées répétées. Et du harcèlement. Elle a signalé ces incidents à l'entreprise qui n'a rien fait.
Toutes les recherches ne confirment pas la corrélation présumée entre les plateformes de médias sociaux et les atteintes à la santé mentale des jeunes, affirme Linda Shammerman du Wellesley College.
Il y a des études qui montrent que l'utilisation des médias sociaux est bénéfique, mais il y a aussi des études qui montrent qu'il n'y a aucun lien entre le bien-être et l'utilisation des médias sociaux.
L'agence fédérale affirme que Meta ne s'est pas entièrement conformée à ce règlement et cherche à modifier un accord qui lui interdit de tirer profit des données collectées auprès d'utilisateurs de moins de 18 ans.
Le mot d'aujourd'hui, Eric Manilakiza, c'est la fin de cette édition. Merci à Lionel Unaniagahima qui a assuré la réalisation et la mise en onde. Restez à l'écoute de nos programmes. Excellente journée à vous tous. À la prochaine.